Bonsoir tout le monde, jeudi soir, jeudi 19h, c'est évidemment live sur Géopolitique Profonde. Comme quasiment même tous les soirs, on est là pour produire du contenu, pour avoir évidemment les meilleurs invités et pour aller dans la réflexion, parce que c'est ce qui manque évidemment dans ces médias mainstream. Alors n'hésitez pas à rejoindre le club Géopolitique Profonde. Voilà, vous rejoignez, c'est en bas, c'est sur YouTube, vous aurez des vidéos exclusives. En attendant, nous avons ce soir un député que j'adore, que j'ai interviewé je ne sais combien de fois, chez qui même je vais à Strasbourg, en plénière, au Parlement, pour faire des émissions, évidemment, toujours fort intéressantes, avec un député qui travaille, c'est rare, c'était rare, moi, en tout cas, maintenant, je rencontre des députés qui travaillent, c'est évidemment Virginie Joron. Avec elle, nous allons parler ce soir identité numérique, argent numérique, évidemment, mais je l'ai découvert en préparant l'émission cet après-midi, on va parler farine d'insectes. Bonsoir chère Virginie, comment allez-vous?
Bonsoir Mike, ça va très bien, merci pour l'invitation et puis de mettre à l'honneur ces deux sujets qui vont être importants encore cette année, puisqu'on l'a vu, on débute l'année en fanfare, le 3 janvier 2023, signature de l'autorisation de la mise sur le marché européen de la poudre de criquet dans tous les aliments, de la pizza aux biscuits, à la purée, à la soupe, à la bière.
D'où ça vient ça? C'est quoi, c'est une directive européenne qui est sortie un peu comme ça par hasard? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, en fait, en 2015, il y a eu un vote déjà au Parlement européen qui a ouvert la liste des aliments aux insectes. Donc ça, c'était en 2015. Il y a eu ce vote. Déjà à l'époque, nos députés européens du Rassemblement national avaient voté contre cette ouverture aux insectes parce que, bon, voilà, on considère que ça ne doit pas rentrer dans des aliments traditionnels. Et depuis le 2015, donc c'était dans les tuyaux de Bruxelles. Donc, ouverture aux insectes, donc, ce qui veut dire que certaines entreprises, elles ont pris le train en marche pour pouvoir commencer à mettre en place des industries concernant l'élevage d'insectes. Et donc ça, c'est en 2015. Déjà, quand j'ai repris le dossier, j'ai vu qu'il y avait des études qui étaient quand même assez critiques sur l'objet des insectes dans les aliments pour les humains. Ils disaient qu'ils avaient besoin d'études. Ça, c'était en 2015. Et puis, ça s'est accéléré en 2019. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'études par la FAO, donc c'est l'agence de la faim contre une organisation mondiale, qui dit, elle, plutôt qu'il faut aller dans ce sens parce que ça va permettre un petit peu de compenser le manque qu'il y aurait avec la viande et le blé et le soja. Donc il y a ça d'un côté, cette organisation mondiale sur l'alimentation, et puis vous avez Davos qui réfléchit pour nous, comme on le sait bien, pour notre avenir, notre futur, pour nos enfants, qui elle aussi pousse pour dire que changer notre mode d'alimentation va permettre aussi de contenir la pollution. Donc, dans plusieurs études au préalable, donc durant ces 4 ans, entre 2015, 2019 et 2022, il y a eu plusieurs demandes d'autorisation auprès de la Commission par des sociétés pour qu'elles puissent investir et vendre finalement ces insectes. Et donc là, au mois de janvier 2023, c'est la troisième société qui obtient le sésame pour pouvoir vendre pendant 5 ans au sein de l'Union européenne la poudre de criquet, pour effectivement remplacer le soja, le blé dans les aliments qu'on a l'habitude d'acheter, donc du biscuit, au lait pour enfants, à la bière, à la purée, à la pizza, aux frites aussi qui sont pas faites à base de patates mais donc modifiées. Donc, et c'est la troisième parce qu'il y a eu avant l'autorisation pour les verres jaunes. Vert jaune. Enfin, moi, d'habitude, quand je voyais ça dans mes pâtes ou dans des paquets de biscuits, je les jetais, mais là, c'est l'inverse. On les remet dedans et en plus, on va les acheter. Et donc, on a.
Mais c'est
vert,
quel insecte aussi... C'est que des criquets Est-ce que ça peut être des mouches, des araignées, cafards
Alors, aujourd'hui, la Commission a autorisé trois insectes, donc les vers jaunes, le criquet domestique et le. L'inverse, le grillon domestique et le criquet migrateur. Alors, les noms font rêver. Et en cours, il y a encore 11 demandes d'autorisation pour mettre ces insectes dans la production alimentaire. Le problème pour les humains, mais aussi pour le bétail. C'est ce qu'on n'a pas vu venir, en fait, parce qu'au départ, ces insectes, ils sont rentrés pour les aliments pour le bétail. Donc c'est vrai que ça n'a pas fait le buzz, ça a pas, on n'a pas fait attention plus à ça, puisque c'est vrai qu'au départ, on a essayé de nous vendre des insectes, rappelez-vous, dans des sachets un peu jeunes, un peu modernes, un peu attirants. Bon, ça n'a pas pris. Donc du coup, ils se sont dit, on va le mettre autrement, en poudre, ni vu ni connu, je t'embrouille, je te les mets dans le biscuit. Et là, c'est vrai que c'est problématique. Moi, je suis dans la commission marché intérieur, donc c'est tout ce qui concerne la protection du consommateur. Donc à ce titre, on va regarder plus près au niveau de l'étiquetage. Et quand on regarde cette autorisation qu'on a eue pour ce fameux criquet grillon domestique, on voit qu'il y a une ambiguïté dans la rédaction de l'autorisation. Il y a trois articles qui sont un peu contradictoires. D'un côté, vous avez l'agence qui autorise qui autorise l'accès à cette société de pouvoir vendre ces insectes, elle dit qu'elle manque d'études. Donc déjà ça, c'est un premier point qui est pas normal, parce qu'on peut pas dire que c'est, notamment en termes d'allergie. Donc elle dit d'un côté, on autorise, mais en même temps, il faut plus d'études. C'est la charrue avant les bœufs. Après, vous avez la commission qui dit que ça ne nécessite pas vraiment un étiquetage particulier. Et puis en dessous, vous avez un autre article qui dit, mais l'agence, toujours cette même agence européenne de sécurité des aliments, elle dit, oui, mais bon, il faudrait quand même un étiquetage selon le règlement machin. Donc on se dit, bon, là, c'est pas clair. Donc on a posé la question à la commission écrite. Donc vous la retrouverez sur mon site quand elle aura répondu. Donc je publierai sa réponse parce que c'est important pour nous. Moi, je veux bien, à la limite, qu'ils essayent de nous vendre n'importe quoi. De toute façon, c'est déjà en cours. Mais au moins qu'on le sache, un, pour ceux qui ont des allergies, et deux, moi, j'ai envie de savoir, avant d'acheter un paquet de biscuits,
ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, un produit, lorsque remarqué ingrédient, il pourrait mettre, comme le font dans d'autres aliments, des symboles chimiques, et donc, du coup, ne pas savoir qu'on mange des insectes?
Normalement, ça, pour tout ce qui est problème allergique, il devrait être noté, attention, là je crois qu'ils le font pour tout ce qui est à base de crevettes, enfin, tous les allergènes, donc c'est une phrase. Donc la problématique, c'est est-ce qu'ils vont se contenter d'intégrer cette allergie dans les mollusques, où en fait on ne va pas voir qu'il y a de l'insecte, ou est-ce qu'ils vont indiquer que c'est du grillon domestique. Vous voyez, c'est ça qui va être important.
Mais ça, on ne sait pas.
Parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est la coquille, c'est la carapace qui est allergène. Et donc, ça rentrerait dans, vous savez, la définition des allergènes, d'accord, les mollusques, crustacés. Donc, est-ce qu'ils vont aller à mettre la coquille d'insectes, la carapace d'insectes, parce que ça fait peur aux gens. Donc là aussi, il faudra être vigilant sur comment ils vont, notamment les industriels qui vont acheter hein, cette poudre, hein, puisque la société, en plus, c'est marrant. D'un côté, Davos nous dit, voilà, transition alimentaire, parce que transition énergétique, parce qu'il faut éviter l'émission de CO2, parce que le steak, ça pollue et l'insecte, non. Et à côté de ça, on nous fait venir toute cette poudre du Vietnam. Parce que l'autorisation…
C'est une société vietnamienne qui produit ça, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne mangera même pas les grillons de Marseille, quoi.
Non, non, c'est ça. J'en rigole, mais en fait, c'est dramatique sur tous les points de vue. J'ai rien contre cette société. Mais en fait, c'est une volonté de changer notre alimentation, en plus sous prétexte qu'il faut sauver la planète. Et en plus, ce qui est délirant dans cette idéologie, c'est d'un côté, quand je repris toutes les notes, là, d'un côté, on veut tuer le secteur bovin, hein, aujourd'hui, hein, clairement, hein, on les matraque avec des normes. Aux Pays-Bas, pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces grèves des agriculteurs? Parce qu'on veut leur enlever une partie de leur territoire, parce qu'on veut qu'ils réduisent de 30% leur élevage, parce qu'ils considèrent qu'ils polluent trop. Et en fait, on se rend compte que d'un côté, on va exporter notre bétail, et nous, on va importer des insectes. Donc c'est dingue, on est en train de tuer une filière bovine d'excellence. Et à côté de ça, on veut nous faire intégrer quelque chose qui, enfin, moi, je sais pas, l'évolution humaine, on a fait toutes ces années, toutes ces étapes pour arriver maintenant, en 2023, alors, à manger des insectes.
Et j'ai un commentaire d'un internaute qui, visiblement, a l'air de connaître les insectes et il nous dit ces insectes contiennent beaucoup de chitine et oui, elle n'est digérée que par les oiseaux. bizarre. C'est...
Alors ça, j'ai lu ça. Alors dans le rapport, il y a une annexe hein, dans l'autorisation règlement. Oui. Effectivement, il faut mention qu'il y a la chitine, je sais pas comment on dit. Et effectivement, il y a
cette mention. On sait ce que c'est la chitine ?
Bah, apparemment, c'est ce qui est dans la carapace.
Ah, bon.
Voilà. Voilà, c'est ce qui est dans la carapace. Après, on y va en termes d'effets nocifs. Ben voilà, c'est un manque d'études. C'est donc d'où la problématique. Moi, je suis pas scientifique. J'ai vu effectivement certains médecins qui déjà étaient vent debout contre le fait qu'il y ait ces insectes parce que la chitine, effectivement, serait nocive pour notre santé. Moi, j'attends de voir des études plus poussées pour effectivement monter au créneau et dire attention, alerte. Ce qui est problématique aussi, j'ai vu qu'il y avait du cyanure dedans aussi, donc il y a pas mal d'éléments qui seraient problématiques. Mais encore une fois, c'est la charrue avant les bœufs, on met en place, on autorise à mettre sur le marché un produit dont on n'a pas du tout de recul, parce que comme dit, c'est, l'humain, ça fait des siècles qu'il est là, des milliers d'années qu'il est présent. Changer notre mode de vie, notre mode de vie, sans avoir fait d'études, et c'est un peu comment dire dangereux. Et encore une fois, pourquoi quand on regarde de plus près ce dossier, c'est quoi? C'est la volonté. Enfin, l'idée, c'est de dire qu'il faut changer de mode d'alimentation parce qu'il faut sauver la planète en termes d'émissions de CO2 et en termes de pollution, etc. Ça, je l'entends. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas d'ex-pédagogie, il n'y a pas de... C'est vertical, vous voyez ce que je veux dire? Du jour au lendemain, on nous explique que c'est pour sauver la planète, mais il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de débat autour de cette question, même j'ai envie de dire, parce qu'on nous l'a sorti comme ça du chapeau, débrouillez-vous, quoi.
Oui, parce que ça a été sorti, voilà, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire l'autorisation a été donnée. Pourtant, derrière, on ne sait pas, comme vous l'avez dit, comment ce sera inscrit sur les paquets, s'il y a des allergènes, pas d'allergènes. En fait, on ne sait rien. C'est-à-dire que comment se fait-il que l'autorisation a pu être donnée comme ça? Est-ce que, par exemple, la société, enfin, imaginons, hein, je ne veux pas diffamer, est-ce que la société vietnamienne est amie de quelqu'un de la commission?
Non, ça, je ne pense pas, mais je pense que c'est de l'idéologie. Je vous l'ai dit, la FAO a fait une étude, elle dit qu'il y a 1900 insectes sur Terre qui peuvent être ingérés par l'humain. Donc, il faut interroger la FAO, en fait, j'ai envie de dire.
Alors, qu'est-ce que la FAO ?
C'est donc la... Comment dire ? C'est l'Association mondiale de la lutte contre la faim, qui est en D'accord. Italie, pour le coup. En plus, hein, l'Italie, c'est quand même le territoire de la bonne bouffe. Et en même temps, ils nous balancent que les insectes vont sauver la planète parce que grâce à eux, on va moins polluer. Et en plus... on va avoir les mêmes protéines que les protéines de soja ou les protéines animales. Et ce qui pose problème aussi, on l'a vu avec l'affaire des farines animales qu'on a données au bétail et aux poissons. On a bien vu qu'à un moment donné, il y a eu des maladies qui sont sorties, c'était après coup, et après ils ont dû rechanger. Donc là, c'est pareil, on refait un petit peu la même chose, on fait un test, on voit si ça marche, et puis si ça marche, c'est bien, et si ça marche pas, ben, tant pis, j'ai envie de dire. Et ce qui est problématique aussi, donc je l'ai dit, il y a cette volonté de changer, donc, par rapport à cette transition énergétique, lutte contre la pollution et pour le bien de l'environnement. Et en même temps, il faut le dire, le fric. Parce que ça coûte moins cher d'élever des insectes dans une petite usine, là, il y en a une grosse là à Amiens, que de continuer à produire sur des milliers d'hectares de terrain du soja. Donc il y a aussi un aspect financier. Il faut aussi que les industriels le disent, ça va coûter moins cher d'acheter de la poudre de grillon que de la poudre de soja. Donc, ils disent même que dans cette poudre, ils vont faire de la poudre, mais ils peuvent faire aussi de l'huile, et l'huile va remplacer l'huile de palme. Je suis d'accord aussi, la déforestation, c'est dramatique, mais ils sont dans cette énergie aussi, c'est-à-dire transition énergétique, mais sous couvert de se faire aussi du fric, que ça soit surtout les gros, l'agroalimentaire qui vont pouvoir, on le sait, aujourd'hui c'est un vrai problème, le pouvoir d'achat pour tout le monde.
Est-ce que ça peut être aussi
mis en avant.
Est-ce financier. Que cette nourriture du futur peut être totalement généralisée à l'avenir et, par exemple, nos enfants ne plus connaître une côte de bœuf, par exemple, Et
bah, on sera toujours là, hein. On sera, même moi avec mes enfants plus tard, moi je l'élève pour qu'elle mange bien sainement et avec les poulets d'antan. Et voilà, on va continuer à préserver et à transmettre ce patrimoine. Non, de toute façon, on a été résistant un jour, on sera résistant toujours.
Oui, mais peut-être qu'elle n'aura plus du tout. Peut-être que
bah, on va lutter,
on supprimera l'élevage.
Non, mais on va lutter pour que ça reste. Et puis, moi je suis confiante parce que il y a quand même, surtout nous Français, on sait ce que c'est la bonne bouffe. Il faut pas toucher à nos aliments. Il y a une volonté mondiale effectivement de mettre en place un nouveau mode d'alimentation. Dans certains pays d'Asie, il n'y a pas de problématique autour de l'insecte, hein, c'est pas un souci. D'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut avec sa cuisine, j'ai envie de dire. Mais nous, Français, Européens, ça fait partie de nos valeurs, de nos traditions, c'est du patrimoine. Hein. Donc après, c'est toujours pareil. Hein. Vous avez certaines populations qui déjà souhaitent changer de mode d'alimentation, mais il ne faut pas toujours, faut pas imposer, j'ai envie de dire. C'est comme tout, ça fait partie des règles de base, la liberté. Qu'on ait le choix. Moi, les biscuits, si je ne veux pas en acheter, je veux avoir le choix et je veux pouvoir le voir, en fait. C'est ça ce qui est important. Et ce qui est problématique aussi dans cette nouvelle alimentation, c'est comment vont faire les restaurateurs. On voit bien, dans certaines cartes de restaurants, ils mettent les allergènes. Est-ce qu'ils vont, voilà, à eux de aussi de jouer le jeu, de nous dire aussi quand ils vont mettre de la poudre de grillon dans leur pizza, hein ? J'espère qu'ils seront honnêtes.
Est-ce que cette poudre de grillon ressemble, je sais pas moi, à de la farine ? Est-ce qu'on peut à s'y méprendre ?
Ben, a priori, oui, parce que j'ai vu la même chose avec la farine de verre. Parce qu'en fait, finalement, on est passé tous à côté de cette stratégie de mettre de l'insecte partout. Cet été, au mois de mai, il y a eu une émission sur M6 à ce sujet. J'ai revu la vidéo et en fait, c'est vrai, ils en parlaient déjà. Il y a cette grosse usine à Amiens qui produit plus de 200 000 tonnes déjà de poudre d'insectes à base de larves, non, de scarabées. Voilà, donc eux aussi ont l'autorisation avec ce scarabée. Donc, ce qui veut dire que c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà acté. Par contre, quand j'ai regardé cette émission, ils parlaient que de protéines pour le bétail. Donc, ils ne parlaient pas encore vraiment franchement de protéines pour l'humain. Là, ça bascule. Là, vous voyez, on a franchi notre étape avec cette nouvelle autorisation où on voit, et c'est ça pourquoi les gens ont tout de suite regardé ça de plus près, et c'est vrai que ça a un peu buzzé, parce qu'on a vu que ça allait rentrer dans les biscuits, dans les Kinder, dans nos soupes concentrées, dans la purée mousseline. On s'est dit, attends, là, d'un coup, ça va trop vite. Et c'est vrai qu'il y a une petite réaction, j'ai même vu en Italie, là, quelques sociétés du bio, parce que là aussi, certains m'ont posé la question, mais est-ce que ça va toucher le bio ? J'ai envie de dire, si du bio considère que cette protéine va changer celle de la protéine du soja, bah, ils pourront aussi indiquer que ça pourrait être intégré dans les biscuits bio. Donc, c'est pas le bio qui est problématique, c'est l'industriel. Est-ce qu'il va remplacer la poudre de soja ou la poudre de blé par la poudre de grillon ? C'est tout. Et
mais,
toute
mais
la question, ça va être financière.
Bien sûr, mais on sent que les boîtes de Pandore commence à tout s'ouvrir, quoi.
Ah ben là,
et qu'en fait, on doit préjuger de rien. Tout peut être possible aujourd'hui.
Tout est possible. Et de toute façon, maintenant, s'il y a 10 ans, on nous aurait dit ta barre de céréales, il y aura des insectes dedans à la place de la farine, on aurait rigolé. Hein. Parce que l'arnaque, je veux dire, c'est quand on a essayé de nous vendre de l'insecte, hein, je vous dis, dans des petits sachets, directement, ben, ça n'a pas fonctionné. Ça a été un bide, ça n'a pas faim. Voilà, personne n'a envie de manger des larves, même s'ils nous ont mis Koh-Lanta pendant 3 soirs où ils mangeaient des larves. Et sinon, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver. Alors, on a vu une vidéo là, d'Angelina Jolie tourner là, à manger une migale avec ses enfants. Ben non, si elle a envie d'en manger, c'est très bien, mais non, enfin, je ne pense pas que le commun des mortels, monsieur tout le monde, a envie de manger des migales grillées le dimanche, ou des larves qu'on a du mal à décortiquer. Après,
quelles sont les
cultures, 11... c'est pas un souci. Mais nous,
quelles sont les 11 autres demandes d'agrément ?
Alors, de mémoire, j'avais vu effectivement, on m'avait posé la question de mouches. Il y avait là, je ne les ai pas en tête, mais
Ah.
effectivement, il y avait des larves noires, avec un nom là aussi très exotique, mais c'était effectivement de la mouche, quoi. Donc, je n'ai pas exactement tous les noms là, parce que je n'ai pas pris ma fiche avec moi, mais effectivement, il y avait effectivement des larves noires avec un nom exotique. Mais demain, je te les envoie sur Twitter. Parce que je ne veux pas dire
Et donc,
bêtises, après on vous
c'est des.
attaquez pour fake news. Il y a des scarabées, il y a des larves, il y a des
Ah ouais,
vers,
c'est.
il y a de. C'est
Des
le
insectes
jackpot.
exotiques surtout.
Oui, bah oui. Non, elles sont protégées, les nôtres. On a de la chance. Nos grillons, on les laisse tranquilles.
D'accord. Très bien.
Ouais, pour l'instant, parce qu'ils sont capables de tout.
Mais sur ce genre de sujet, vous, en tant que député européen, vous avez votre mot à dire,
Ben, on a
qu'est-ce
eu
que
un
vous
vote
pouvez
en
faire pour
2015.
l'empêcher?
Ben, en 2015, on a eu le vote. Donc, nous, on s'est prononcé contre. Mais bon, voilà, on est toujours. Et dans la liste de votes que j'ai regardée, effectivement, il y avait quand même certains Verts qui avaient voté contre. Mais la majorité, PPE à l'époque, c'est toujours où siègent les LR dedans, avait voté pour. Hein. Donc, c'est passé. Une fois que c'est voté au Parlement,
Oui,
c'est
mais en
terminé.
2015,
Est-ce que. Est-ce
c'était
que...
pour les animaux.
Non, c'était en 2015, donc c'est ça l'arnaque qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de modifier le règlement qui ouvrait cette liste des aliments. Il y a une liste des aliments et dedans, ils ont mis donc cette notion d'insecte. Et c'est vrai que nous, on l'a vu. Alors, est-ce que, bon, si quand même, tout le monde l'a vu. Donc, si nous, on l'a vu, les autres l'ont vu, mais seulement, ça ne leur a pas posé de problème. Donc, en 2015, il y a eu effectivement ce vote sur l'ouverture de cette liste des aliments aux insectes. On a voté contre et la majorité des partis à l'époque a voté pour. Ce qui veut dire qu'ils ont acté le fait qu'il n'y avait pas de problématique à ouvrir au marché. Les insectes à venir, que ce soit pour l'alimentation du bétail comme des humains.
On a vu que ça posait problème, par exemple, au Qatar, qui
Oui, j'ai vu.
expliquait, qui refusait cette poudre, enfin,
Pas
ces
halal.
insectes, parce que voilà, ce n'était pas halal. Ben, justement, ça risque de poser des problèmes avec les Français de confession musulmane en France si cette poudre
Ben
est
oui.
cachée dans les aliments.
Donc, ce qui veut dire que finalement, ça peut être bénéfique pour nous tous, puisqu'ils vont devoir, donc, tous ces producteurs industriels, devoir indiquer précisément, puisque ils le font jusqu'à présent, ils font attention comment dire, dans leur production de produits, de mettre ou pas, d'étiqueter précisément si c'est halal ou pas. Donc là aussi, ils ont à le faire pour effectivement éviter qu'après ils perdent une certaine clientèle. Mais c'est bien, au moins ils se sont prononcés dire. Alors le Qatar, vous voyez comme quoi ça a fait le tour du monde vite fait. Hein. Tout de suite, ils ont dit non. Parce que là aussi, je me suis dit, tiens, d'un coup, ils se prononcent. Donc c'est bien, ça veut dire que cette information, elle a tourné. Je vois qu'en Italie et en Allemagne, ça tourne aussi. Des campagnes de certains supermarchés bio ont tout de suite dit, nous, c'est non. C'est niet, on ne mettra pas de poudre, de grillons dans nos aliments. Ou alors, on n'achètera pas des aliments à base d'insectes. Parce que là aussi, c'est marrant, les véganes, s'ils sont vraiment véganes, ils ne voudront pas aussi avoir acheté des biscuits à base d'insectes.
Bien sûr. Mais moi, vous savez, ce qui me désole, c'est que ça fait le tour du monde, mais évidemment, ça ne fait pas le tour de France. C'est important pour le coup. Et,
Ouais.
et, euh,
Oh,
et, et, ou alors,
il y
ça
a
fait
eu
le
une
tour de
petite
France, mais
réaction.
les gens ne sont pas au courant. Ou alors, ils ne se révoltent
Non,
pas.
après,
Enfin, je
ça
sais
fait
pas.
pas la une du JT, ça fait pas la une du JT, mais j'ai vu un article de Libération qui a fait tout de suite un fact-checking, c'est savoir si j'avais pas dit des bêtises, parce que c'est toujours pareil. Hein. Ah là là, est-ce que c'est une fake news ou pas? Ben non, c'est pas une fake news, il faut juste aller sur le site de la commission, il y a trois articles qui sont contradictoires. Je vais poser la question de savoir pour éclaircir la situation au niveau de l'étiquetage, mais non, c'est pas une fake news, il y a l'autorisation qui est là, qui est signée par la présidente de la commission. Et en même temps, quand on regarde ce dossier, on est en train de se rendre compte que ben, finalement, c'est pas nouveau, c'est ça qui est dingue, c'est pas nouveau, c'est le troisième insecte qui est validé par la commission. Et puis on en a l'industrie, il y a deux industries en France qui ont pignon sur rue. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'émission de M6, c'est qu'on voit qu'il y a eu cette année les 27 ministres écologistes qui sont venus voir cette industrie. Donc c'est même pas la santé ou la protection des consommateurs, c'est l'environnement. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est ça. Ça permet effectivement cette idée d'intégrer les insectes, que ce soit pour l'alimentation du bovin ou l'alimentation alimentaire de tous les jours pour les humains, c'est la volonté de polluer moins et de passer dans cette nouvelle transition énergétique.
C'est-à-dire que nous rentrons en plein dans l'agenda. Malgré qu'on dise que c'est complotiste, l'agenda, il est bien présent, lui.
Oui. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à Davos, il y a des ateliers consacrés à la nouvelle alimentation. On l'a vu, hein, je crois que vous en avez parlé, les steaks artificiels, ça aussi, c'est dans les tuyaux. Donc, petit à petit, il y a une volonté, sous prétexte de transition énergétique, sous prétexte de protection de l'environnement, sous prétexte, ça s'appelle ici au Parlement européen, le pacte vert, de modifier toutes nos modes de production, nos modes d'élevage, pour aller vers du plus propre, du moins cher, avec des nouveautés comme le steak artificiel, comme maintenant la poudre d'insecte qui va compenser la poudre de soja, la poudre, la farine de blé, la farine de maïs, enfin voilà, tout ce qui considère aujourd'hui être nocif pour notre environnement.
Vous savez, la mairie de Paris pourrait aussi, pour l'écologie, ouvrir à ce qu'ils appellent les surmulots. Hein. Parce que surmulots, c'est-à-dire les rats. Ça pullule à Paris, pourra faire des élevages. Hein. Ça, c'est... Ouais. Et puis, c'est gros comme des lapins, en plus. Hein. Ça pourrait être assez nourrissant.
Mais je crois que la mairie écolo de Strasbourg, là-dessus, elle ne veut pas qu'on stigmatise ces mulots. Attention.
Ah, d'accord.
Ils sont protégés, ouais. Je crois qu'il y avait une conversation un soir au conseil municipal où là aussi Strasbourg a beaucoup de rats, parce qu'on les appelle comme ça aussi, hein, les rats. Et il y avait donc une écologiste qui s'était offusquée de savoir qu'on les appelait, on les dénommait avec ce terme et que c'était stigmatisant pour ces pauvres animaux. Donc attention.
Voilà. Mais ce qui est... Ce qui est formidable avec vous, chère madame la députée, c'est que l'identité numérique, l'argent numérique, là maintenant, la farine d'insectes, mais vous avez toujours les sujets que personne ne prend, mais qui font quand même, qui mine de rien font la une, et que vous arrivez à mettre sur la passe publique. Comment vous faites ?
C'est l'instinct politique. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Je ne sais pas. J'avoue que là... parce que peut-être depuis 2 ans, on voit que je travaille sur certains sujets et que ça porte. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai un peu maintenant de soutien et que les gens m'écoutent en fait. Et ils se disent, tiens, si elle a dit ça, c'est vrai. Donc ça se partage et puis après ça prend de l'ampleur. Mais je pense que j'ai aussi j'ai beaucoup de chance parce que l'identité numérique, c'était évident avec le passeport vaccinal, et puis comme dit, on va peut-être en parler, mais c'était pas quelque chose qui n'était pas dans les tuyaux, hein. Vous connaissez tous cet agenda, la roadmap de la commission, où des gens en fin 2018, ils savaient qu'il y avait à avoir un passeport vaccinal. Donc ça, je le savais. Donc quand j'ai vu le passeport d'identité numérique, bien sûr, j'ai pris vite fait le dossier. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un bon sujet parce que dans le numérique, quand on lit quelques livres, on se rend compte que finalement, on ne rêve pas, tout est là sous nos yeux. L'agenda 2030, les objectifs, vous savez, là, il y a les objectifs de l'ONU avec le petit rond là, de tout arc-en-ciel, là, les goals qui ont été rédigés, parce que finalement, tout est là. Des fois, c'est vrai que quand je fais des conférences, alors il y a les sujets nationaux, mais les sujets mondiaux, on les a sous les yeux. On n'en parle pas assez. Mais les goals, là, les objectifs de l'ONU qui ont été rédigés il y a 5-6 ans, il y a l'agenda. Dedans fait partie l'agenda numérique. Dedans, et on parle de l'environnement. Donc, il suffit de prendre le bon compartiment. Et après, on voit effectivement que tout se déroulait, toutes ces conversations qu'ils ont eues à l'époque, c'est en train de se mettre en place. Et donc, c'est vrai qu'en lisant ça et en recoupe avec les informations aujourd'hui, et puis quand on regarde ce qui se passe à Davos et quand on regarde ce qui se passe au G20, c'est des sujets qui sont pas finalement à l'autre bout du monde, qui touchent maintenant notre quotidien. Donc effectivement, il y a l'identité numérique, il y a maintenant les insectes, et puis on l'a vu aussi, alors je ne suis pas dans la commission en vie, mais mes collègues y sont aussi, et toutes ces aberrations, elles le voient. On l'a bien vu avec la volonté de changer aussi notre mode de transport. Du jour au lendemain, tu sais, fini ta vieille Dodge et tu vas passer en électrique. Et puis maintenant, on voit qu'il y a des coupures d'électricité et que c'est plus facile. Et puis tout le narratif autour, voilà, pour l'environnement. Enfin, là aussi, on pourrait aussi s'attaquer à ce sujet. Mais il faut essayer de se concentrer. Moi, je suis au marché intérieur, donc j'ai accès au marché du numérique. J'étais aussi à suivre le dossier des DMA, DSA. DMA, DSA, c'est quoi ? DMA, c'est pour réglementer les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, réglementer ce monopole. Et DSA, c'est pareil, c'est Digital Service Act, c'est pour aussi réglementer tout ce qui est autour des services de ces plateformes numériques, et notamment la désinformation. Ça aussi, c'est un sujet que moi qui me passionne, parce que moi j'ai grandi avec ces études où on a appris ce que c'était la désinformation, mais il y a 20 ans avant Internet. Donc quand je vois qu'aujourd'hui on nous met de la désinformation à toutes les sauces, bah, ça me passionne, parce que je me vois que l'outil de désinformation, qui est un vrai outil, une arme de guerre pour faire passer des idées, pour lutter contre des opposants, bah, ils sont en train de l'utiliser. Donc mais, voilà, j'ai un peu de chance aussi.
Un travail d'enquête du coup, faites un vrai travail d'enquête. Mais comment vous bossez, par exemple, sur un sujet, voilà, vous flairez un sujet, bon. Et après, comment vous travaillez dessus?
Bah alors, par exemple, l'identité numérique. Quand j'ai vu le dossier, j'ai dit à mes assistants, maintenant, bingo, vous faites toutes les recherches possibles concernant ce dossier. Et après, pendant une semaine, on regarde, on fait des recherches. Alors, il y a des recherches sur Google, on regarde un petit peu ce qui se passe, quand on met des mots-clés. Puis après, avec un assistant, on regarde ce qu'il y a au niveau de la commission. Et pareil, il y a tout, on a tout sous les yeux. Alors, c'est sûr, c'est hyper lourd, parce que beaucoup de textes sont en anglais. Après, il faut les traduire. Après, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Après, il faut regarder. Donc oui, c'est un travail d'enquête, mais finalement, on a tout sous nos yeux. Après, ça demande beaucoup de temps, mais c'est notre boulot. Et puis, c'est vrai que j'ai une bonne équipe. C'est vrai que je ne suis pas toute seule. Hein. Faut pas rêver, hein. Je ne suis pas toute seule. Après, c'est sûr que c'est moi qui dis, je leur dis, voilà, tel sujet, on y va à fond, identité numérique. Là, j'avais aussi la publicité des partis politiques, qui est aussi une nouveauté. Hein. C'est marrant, hein. Du jour au lendemain, plus de transparence. Donc, on demande aux partis politiques pour les prochaines élections d'intégrer de nouvelles règles pour annoncer s'ils ont travaillé avec telle ou telle agence, et puis tout de suite annoncer s'ils sont en mode publicitaire. Parce que c'est vrai que quand j'ai pris le dossier…
C'est-à-dire que ce qu'ils demandent exactement ?
Ben en fait, ce qui est marrant dans ce dossier aussi, c'est que tout de suite en préambule, pour expliquer la volonté de réglementer les partis politiques lors des élections, des prochaines élections, pour dans un but de plus de transparence et éviter le ciblage, parce que le ciblage, c'est quoi ? C'est effectivement focusser sur certaines populations pour mieux les alpaguer pour les élections. En gros, je la fais courte.
Mais c'est que et pour l'Europe ou c'est pour les nationales ?
C'est pour l'Europe, pour tous les 27 États membres. Mais en fait, ce qui était intéressant dans ce dossier, c'est que d'emblée, pour nous présenter le dossier, c'est qu'ils considéraient que le résultat du Brexit et le résultat de Donald Trump étaient biaisés parce qu'il y a eu du ciblage à cause de Cambridge Analytica, et que c'était il y a de l'ingérence étrangère, il y a de l'influence étrangère, ce qui amène des résultats tels quels, et que c'est donc un danger pour la démocratie. Et moi, je leur ai dit, mais attendez… Mais la démocratie, les gens qui votent, ils ne sont pas aussi stupides que ça. C'est tout simplement une mauvaise campagne, c'est tout simplement un mauvais programme, c'est tout simplement que les gens ont fait un choix. Il ne faut pas croire que c'est à cause de la publicité que les gens ont voté le Brexit ou Donald Trump. Vous voyez ? Donc ouais, ce dossier me passionne parce qu'il est aussi emblématique de cette volonté de ne pas voir. Que les gens, que la population, s'ils votent chez nous, s'ils votent Trump, s'ils votent Brexit, s'ils votent Viktor Orban, c'est qu'à un moment donné, bah, ils adhèrent à leurs idées, et aussi certains n'adhèrent pas à ce qu'incarne la Commission et le Parlement européen. Mais ça, ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête.
Est-ce que ça veut dire que la Commission européenne a a quand même peur des peuples.
Ouais.
Et lorsqu'elle a vu ces votes qu'elle ne soupçonnait pas, elle essaie de réagir.
Pour moi, ils sont terrorisés. D'ailleurs, je leur ai dit, j'ai fait une intervention, je dis, ils sont terrorisés. Ils ont été terrorisés. Il faut savoir qu'ils ont été terrorisés par le Brexit. Ils s'en remettent toujours pas. Donc, et pour éviter cela, ils se disent, il faut qu'on prenne toutes les mesures pour éviter un prochain Italexit ou un Frexit. Vous voyez, ils sont terrorisés par ces résultats. Donc, ils mettent en place tout un système pour lutter contre. Alors, eux, ils pensent que c'est la publicité. Mais voilà, encore une fois, je leur ai dit non, faut arrêter de normer, d'imposer encore à des entreprises de l'étiquetage, parce que c'est ça qui va mettre des bannières. Parce qu'en plus, là, c'est un dossier qui est suivi par Renew Sandro Gozzi, donc un macroniste. Je lui dis, tel qu'il est rédigé le texte, demain, vous avez un compte Twitter, pendant les élections législatives, européennes, etc., vous ne pouvez pas parler. Ou alors, il va falloir dire que vous... Ça veut dire quoi? Que vous faites de l'autopublicité. Mais c'est un non-sens, on fait de la politique.
Ça veut dire dans les faits? C'est-à-dire dans les faits, moi, par exemple, je suis député, je ne pourrais pas envoyer de tweet.
C'est la question. Ah, ça coupe. C'est la question que je lui ai posée. Je lui dis comment on fait? C'est-à-dire qu'on doit plus parler pendant la période électorale? Parce que tel qu'il est écrit le texte, c'est l'article 5A, c'est pas clair. Dans le sens où ils mettent aussi tout discours politique, d'homme politique, doit être considéré comme de la publicité. Donc ça va pas. Ou alors tout le monde s'autocensure pendant les élections. Donc là, de toute façon, le rapport a été voté la semaine dernière. Évidemment, il est passé. Maintenant, c'est compliqué, mais maintenant, il va y avoir des discussions avec la Commission, ça s'appelle un trilogue, et le Conseil européen, et nous. Donc là, on va suivre le dossier, et peut-être il y aura des aménagements. Mais ce qui est marrant, c'est l'idéologie du texte. C'est la peur de la démocratie, en fait. C'est la peur du résultat, la peur des urnes, du résultat des urnes. Et donc, voilà, on va essayer encore de se trouver... Des normes à mettre en place. Ils vont mettre un registre européen de tous ceux qui auraient fraudé, une liste noire, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est que pour les publicités dans le numérique. Rien pour le reste. Donc là aussi, on sait très bien que dans les 27 États membres, il y a certains États qui ont du retard dans le numérique, donc ils ne seront pas concernés par cette loi. Donc il n'y aura pas un équilibre entre les États et aussi les élections. Mais ça, bon voilà, mais ça, ça fait partie des rapports qu'on a vus cette année, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ouvre un dossier, il y a une pépite.
Est-ce que ça veut dire que pour cette directive, ils vont travailler main dans la main avec les GAFAM?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est de toute façon là avec le DMA et le DSA, c'est l'ouverture puisque c'est en cours d'être mis en place. Et dans cette réglementation, donc qui est assez grande, il y a donc le compartiment de ce règlement qui est donc la publicité des partis politiques avec pour éviter le ciblage. Donc c'est le ciblage qui va être effectivement demander aux GAFAM de contrôler, de vérifier et de mettre en place des règles à ce titre.
En tout cas, ce qui est important sur ce que vous venez de dire, vous avez dit ils sont terrorisés. Parce que souvent, les gens qui nous regardent et puis ceux qui vous écoutent aussi se disent « Oui, mais ils sont trop forts, ils ont 10 coups d'avance, ils pensent tout, sur tout. » Alors qu'en fait, c'est pas vrai, vous qui les connaissez de l'intérieur, ils sont terrorisés, ils ont peur du peuple.
La preuve avec ce rapport, mais je leur ai dit tout de suite, je dis « Mais pourquoi ? On n'a pas besoin de ça. » C'est pas le problème de la publicité, c'est le programme, c'est le choix des électeurs. Et je le répète, hein, mais quand vous voyez que dans le préambule que c'est parce qu'il y a eu les résultats du Brexit, parce qu'il y a eu les résultats de Donald Trump, qu'il faut faire attention pour les prochaines élections, parce qu'ils considèrent que ce résultat était biaisé, que ne reflétait pas finalement la volonté du peuple. Vous vous rendez compte? Bon, ils ne sont pas allés jusqu'au populisme et la montée de la Lega ou du RN en France, parce que bon, ils savaient très bien qu'on allait réagir tout de suite. Mais c'est, finalement, c'est ce qui est écrit entre les lignes. voyez, dans ce rapport. Mais non, bon, voilà, c'est un parmi tant d'autres des dossiers qui sont emblématiques de démontrer que la démocratie, c'est selon. Parce que j'ai un autre exemple avec la démocratie. Rappelez-vous, vous le connaissez bien, c'est ce pass sanitaire qui a été mis en place, le cadre européen, via le Parlement européen. Effectivement, on a eu notre beau dégradé autoritariste en France, mais à l'origine, c'est au niveau européen qu'il a été mis en place. Et rappelez-vous, pour l'extension jusqu'en 2023, il y a eu une consultation publique de la Commission. Hein, il y a eu plus de 385 000 avis. On a regardé avec mon équipe, parce qu'ils sont toujours là avec moi, ils me soutiennent. À chaque fois, je leur dis, on va vérifier. Et on a regardé, on a fait 5 pages, et il y avait 99% d'avis négatifs. Est-ce que la Commission a tenu compte de cette consultation publique? Ben non. Voilà. Donc, vous voyez, la démocratie, d'un côté, ils veulent la protéger, la défendre. Et puis, quand ils ont l'opportunité vraiment d'avoir une vraie consultation citoyenne honnête et juste, ben, ils en tiennent pas compte. Et c'est comme les pétitions, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'est important. Vous avez l'opportunité, les citoyens, de déposer une pétition. Je n'ai jamais, en 4 ans, débattu d'une pétition en commission. On a, je vous le dis, on a un draft, c'est-à-dire on a l'ordre du jour en commission, et on voit à la fin, pétition machin, pétition bidule, numéro machin, et on n'en débat même pas. C'est, il y a écrit par le secrétariat, pour avis, ou non, pour information. C'est-à-dire que la pétition, on n'en débat pas. Elles sont mises à la poubelle.
Donc, des pétitions avec des centaines de milliers de signatures, j'imagine.
Ben oui, je crois que c'est des millions même. Je sais plus exactement la règle. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est 1 million de signatures et encore à vérifier. Mais quoi qu'on puisse en dire, c'est quand même une pétition citoyenne. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on offre aux citoyens en leur disant voilà, on est ouvert, consultation citoyenne. Volonté d'écouter le peuple parce que voilà, le peuple c'est important et toujours sous couvert de protéger la démocratie. Et quand ils ont une pétition, moi j'en ai jamais en commission marché intérieur. En 4 ans, je n'ai jamais débattu d'une pétition sur le sujet qui aurait pu nous incomber. C'est comme ça, pour avis, et en fait, ça va
la poser. Parce que la Commission européenne fait fi de la démocratie. Mais est-ce que c'est pour ça aussi que la Commission européenne souhaite imposer l'identité numérique?
Alors, je pense que oui, je pense qu'à terme, ça fait partie de l'agenda 2030. C'est un outil parmi tant d'autres, en fait, hein, j'ai envie de dire. Le passeport d'identité numérique à l'échelle européenne, c'est effectivement, au départ, ça nous est vendu pour nous faciliter la vie. En nous disant, voilà, il y a eu le. En plus, là aussi, en prenant le dossier, c'est par voie de règlement, donc c'est-à-dire que c'est imposé aux États membres. Chaque État membre devra proposer. À tous les citoyens un passeport d'identité européen numérique gratuitement, ça nous l'avons défendu parce que si au moins ça doit être fait, au moins que ça soit gratuit, pas payant. C'est ouvert aussi parce que normalement la carte d'identité nationale c'est une prérogative de l'État, donc ça va être ouvert aux entreprises privées. Donc là aussi, toujours pas problématique des datas, de la conservation des données, c'est quand même des données sensibles. Mais c'est ouvert quand même aux entreprises privées. Donc l'idée, c'est quoi? C'était de se dire que durant la crise Covid, il y a eu effectivement confinement. Donc qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils sont allés plus sur Internet, donc ils ont commandé plus. Donc le numérique a pris beaucoup d'ampleur durant cette période. Donc ils se sont dit, bon, ben, il faut qu'on continue à développer ce secteur en facilitant et en donnant l'opportunité aux consommateurs de pouvoir s'authentifier sous protection et confiance avec les services. Donc on va développer ces services au niveau européen. Mais bon, ça c'est ce qu'ils nous mettent dans le règlement pour nous vendre la nouvelle réglementation. Et comme je l'ai dit, on a eu l'épisode du passeport sanitaire européen, le Green Certificate, mais avant, il y avait déjà dans les tuyaux le pass vaccinal. Donc, ce qu'il y a, c'est que cet outil était déjà en phase test. Hein. Donc, on avait le pass vaccinal qui était dans les tuyaux, qui s'est concrétisé par le Green Certificate, donc le pass sanitaire européen, qui, je rappelle, est toujours en vigueur jusqu'en juin 2023 au niveau européen, le cadre. Hein. Et là, donc, vous avez cette opportunité donc, de mise en place d'un passeport européen. Ils appellent ça un e-wallet, où dedans, on nous vend qu'on va pouvoir mettre nos diplômes, nos ordonnances, notre carte bancaire, et toutes les factures si on le souhaite. Toujours pour nous faciliter la vie, pour pouvoir acheter sur Internet. Moi, j'ai rien contre Internet. Et quand on, comme les vidéosurveillances, hein, c'est très bien quand on n'a rien à se reprocher et quand c'est pas utilisé pour nous exclure de la société. La problématique, pas traumatisé, mais on se rappelle tous de la dérive autoritaire qu'on a eue pendant plusieurs mois à cause de ce pass sanitaire, où on a été exclu, discriminé, stigmatisé de la société. Donc la crainte, c'est celle-ci. C'est est-ce que cet outil qui nous paraît aujourd'hui anodin, qui va nous faciliter la vie, c'est surtout comme ça qu'on nous le vend, hein, pour continuer à bien faire fonctionner le marché intérieur, à pouvoir acheter en Norvège des chaussures et pouvoir être identifié facilement avec la carte message, j'ai envie de dire, ça fonctionne déjà.
Mais c'est un peu comme le diable de Faust, c'est-à-dire qu'il nous montre les belles choses pour qu'on signe en bas de la page, et le jour où vous avez signé, ben, vous avez vendu votre âme au diable, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça, et c'est d'ailleurs une des interventions que j'ai faites auprès de Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, en disant, voilà, on comprend la démarche, parce qu'effectivement, pourquoi pas être bien. Enfin, c'est vrai que pendant le confinement, ceux qui ont acheté des biens immobiliers, on l'a fait, et même on le voit aujourd'hui, les contrats d'assurance, on peut les signer par Internet, il y a une authentification avec une signature électronique, c'est très bien, franchement, si c'est sécurisé et ça facilite les transactions, il n'y a aucun problème. La problématique dans ce dossier, et c'est ce que j'ai souligné tout de suite, parce que pareil, chance ou pas chance, moi j'ai dit, il n'y a pas de problème si on ne met pas les données de santé. Parce qu'encore une fois, j'avais en mémoire ce pass vaccinal, ce pass sanitaire, et la volonté, et on le savait en France, de mettre le dossier médical dedans, comme par hasard, les vaccins, et que du jour au lendemain, on nous l'a imposé. Donc, toujours pareil, moi, avec ce vécu où on nous a exclus de la société parce qu'on n'était pas vacciné, moi, la crainte, c'est celle-ci. C'est que demain, dans ce passeport d'identité numérique européen, pour nous faciliter la vie, parce que c'est ça, hein, le narratif pour le pass vaccinal de la Commission, parce que c'était ça l'origine de ce travail, c'est vrai, des fois, on ne se rappelle plus en quelle année, on sait qu'on ne connaît pas les rappels, ça, c'est vrai que c'est une problématique. Mais le problème, c'est que si on donne ces informations à un État, à un régime, qui à un moment donné pète le câble parce qu'il y a une pandémie, ben voilà. Après, c'est ça, ça nous enlève nos libertés. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en Canada et aussi en Chine. Et quand j'ai posé la question à Thierry Breton, je vois le modèle que vous voulez mettre en place. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est facultatif. C'est vrai que ça reste facultatif pour le citoyen. Je lui ai dit, mais demain, il y a une pandémie. Est-ce que vous ne courez pas après ce modèle chinois? Il m'a dit, de toute façon, Madame Joron, 95% avaient accepté le pass sanitaire. Voilà, donc... Mais il n'y a pas pire que les autres régimes, on n'est pas dans cette énergie. Mais bon,
il y a une chose qui est bizarre. Il y a quand même une chose qui est bizarre.
C'est qu'on a accepté, oui.
Bien sûr, c'est qu'on a accepté, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en septembre, normalement, ça aurait dû passer en septembre, ça a été reporté en novembre et ça a été encore reporté. Comment se fait-il ?
Le vote, là, vous voulez dire
Oui, le vote de l'identité numérique.
Il vient parce qu'on a un super député qui s'occupe de ce dossier qui est en ITRE. Hein, ITRE. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs commissions. Donc, moi, je suis marché intérieur. Donc, moi, je donne un avis. Mais le rapporteur principal qui a la légitimité pour porter ce dossier en plénière, c'est la commission ITRE. C'est énergie, sécurité alimentaire. Et donc, du coup, eh ben, celui qui porte le dossier, c'est notre fameux Roumain, Christian Terrès. D'accord. Et lui, il est contre. Et il a demandé plein d'études et des experts à venir en commission. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais c'est grâce à
donc, il fait ralentir la procédure.
Ah ben, il pose toutes les questions, il met en avant des problématiques parce qu'il y a plein de questions autour de ce sujet, parce qu'on a vu la dérive du pass sanitaire. Et puis lui, il a compris tout de suite que c'était... vous savez, tous ces pays de l'Est, ils ont fui, ils ont dénoncé le régime communiste. Donc, dès qu'ils voient un pouvoir comme ça excessif qui pourrait être repris par un État, par un gouvernement, eh bien, ils sont très prudents et ils sont même très récalcitrants pour que le gouvernement, l'État, puisse avoir ce type de pouvoir. Enfin, donc, c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Mais ça va être voté. Et ça va être voté pourquoi ? Parce que là aussi, démocratie. Hein, C'est un beau mot, démocratie, je respecte le choix du peuple, il y a du vote, etc. etc. Ben là aussi, ce dossier n'est toujours pas voté. On est d'accord, normalement, ça devrait être premier trimestre, maintenant au mieux, à cause effectivement de ces retards. Eh bien, il y a eu un appel, un offre d'achat, un appel d'offres qui a été fait au mois de décembre par la Commission, parce que ça coûte le bazar, il va coûter 31 millions d'euros. Et donc, il y a un appel d'offres pour savoir qui va pouvoir piloter ce marché. Ben ça, c'était en décembre 2022. Donc, l'appel, malgré le fait que ça ne soit pas voté, ils ont quand même lancé l'appel d'offres. Et apparemment, ça serait… Alors là aussi, ils ne nous ont pas donné tous les éléments, parce que le problème de la commission, c'est qu'elle ne veut pas tout nous donner. Et donc, le nom de ceux qui ont été retenus, ben, c'est un consortium. On n'a pas tous les éléments, parce que là, maintenant, ça, c'est le travail de mon assistant qui va poser les questions à la commission. Consortium potentiel qui recueille 148 participants de 19 pays européens. Et pour l'instant, c'est les seuls éléments qu'on a. Mais donc, ça a été déjà accepté.
C'est un consortium privé. L'appel d'offres,
ben, là, on ne sait pas. Il n'y a pas plus d'éléments. La commission refuse encore de communiquer à ce sujet car le contrat n'est pas encore signé au 20 janvier, même si la sélection a eu lieu au 14 décembre. Donc, et l'Ukraine fait partie, hein, des pays européens pour ce dossier. Marrant, hein. Donc,
ce qui est-ce que tu as un indice pour que l'Ukraine vienne en Europe?
Sans doute, ouais. Oui. Mais de toute façon, là, tout est en marche pour que ça soit comme cela. Mais ce qui est marrant, c'est que on n'a pas voté le dossier, mais déjà il y a l'appel d'offres, d'accord? Voilà, la charrue encore une fois avant les bœufs.
Donc après, on parle de nous. Ça signifie qu'ils font fi de la démocratie, tout simplement, et qu'ils savent qu'ils ont déjà la majorité.
Exactement, mais ça, c'est voilà, c'est ça, l'Union européenne. Et c'est et comment voulez-vous qu'après nous, on puisse pas l'expliquer, donner ces informations? Ils sont en rage parce qu'on fait ce travail. Hein. Mais je suis désolée, on peut pas d'un côté nous attaquer. Nous, on est l'extrême droite. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est nous qui respectons pas les lois. C'est nous, on est contre la démocratie, on respecte aucune valeur. Alors que c'est eux. Là, pour le coup, c'est eux. La commission n'avait pas la compétence santé. Elle n'a pas la compétence santé. Et elle a considéré qu'elle l'avait comme ça, de facto, pendant la crise Covid. Idem avec d'envoyer des armes à l'Ukraine. Pareil, de facto, elle s'est pris cette compétence. Mais elle n'a pas demandé, il n'y a pas eu de vote. Donc, on est face à une commission. Et c'est vrai, quand je discute avec mes collègues, parce que moi, c'est mon premier mandat, ils m'ont dit, mais c'est vrai qu'il y a une accélération là, depuis cette nouvelle commission, où on a une commission autoritariste qui s'arroge des droits. Et avant, on pensait, vous savez, à l'Union européenne version fédéraliste. Ben là, on a une Union européenne version impérialiste. Je m'impose, c'est comme ça. La souveraineté des États, les constitutions des États, elles sont remises en question. On sanctionne des États parce que sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans les valeurs du traité, avec sanctions contre la Pologne, sanctions contre la Hongrie. Donc, on est dans une Union européenne j'aime pas le mot dictatorial, mais on est dans un impérialisme, ouais, on est dans une où elle s'arroge des compétences, elle s'arroge des droits. Là, pour le coup, l'exemple, c'est un petit exemple, hein, je suis sûre que dans chaque dossier c'est un peu comme ça. L'exemple que je vous démontre sur l'identité numérique, on n'a pas voté, on sait pas quand on va voter, mais il y a l'appel d'offres qui est déjà là et les États qui sont déjà retenus, et elle veut pas communiquer dessus. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux de cette commission.
Mais les États, ils n'ont pas leur mot à dire. Monsieur Macron ne veut pas appeler Madame von der Leyen et dire, écoutez, Madame, là, vous allez trop loin.
Ils se font la bise. Ce soir, ils mangent ensemble, ils sont heureux, ils s'embrassent, ils sont tous ensemble. Donc, ne comptez pas sur Macron. Au contraire, je l'ai assez dit, si Madame von der Leyen, c'est grâce à Monsieur Macron. Non, c'est grâce à lui si elle est là. Donc les seuls qui veulent mettre un frein à tout ça, c'est les pays de l'Est, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, et pour le coup, ils se sont pris une petite sanction. Et ce qu'ils sont en train de faire, parce que normalement, la règle, c'est l'unanimité. Pour changer les traités, c'est l'unanimité. Et là, dans les commissions, ils sont en train de faire passer des résolutions, des propositions pour changer ça aussi, ce mode de vote. Parce que le blocage, ça les empêche, et en même temps, ça nous protège.
Combien de temps nous avons avant la mise en place dans les pays de cette identité numérique?
Alors, dans les textes, déjà l'appel d'offres, après la mise en place, donc le vote là, c'est l'agenda 2030. Hein. Donc,
on a 7 ans.
Ouais, c'est ça. Alors, attendez, parce que j'avais vu, effectivement, parce que, ah oui, ils ont, alors voilà, la commission, elle s'est donné un temps de 18 mois pour faire le test. Mais bon, voilà, pour faire un test auprès des États. Donc, c'est 18 mois. Mais après, c'est l'agenda 2030, donc ça va se faire au fur et à mesure. Voilà. La commission peut, après 18 mois, rendre le portefeuille d'identité numérique européen obligatoire pour les fournisseurs. Voilà, c'est ça qu'ils avaient, qui sont en train de mettre en place. Mais obligatoire, ouais, voilà, donc on a les délais. C'est peu. Donc là, c'est encore en cours de négociation. 18 mois.
Mais dans ces 2030, il y aura la monnaie numérique aussi?
Ben là, ça fait partie des tests dans le consortium. Dans le consortium, donc il y a, parce que c'est, comme j'ai dit, donc il y a 18 États membres, il y a 148 participants, et les quatre dossiers en test, en priorité, voilà, dans l'appel d'offres, ils disent qu'il faut 4 services dans cet appel d'offres. C'est répondre sur le permis de conduire, l'e-santé, évidemment, les paiements et la reconnaissance des diplômes. Alors, la reconnaissance des diplômes, c'est le focus, c'est pas la reconnaissance des diplômes et le permis de conduire, c'est l'e-santé et les paiements. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu cet été qu'en phase test aussi, Amazon avait été retenu par la BCE pour l'euro digital. Donc là, ils ont dit, donc 18 mois, donc la commission souhaite qu'en 18 mois, les États membres mettent en place ce nouveau système proposé facultatif auprès de leurs citoyens, et puis avec tout un tas de participants, donc je crois qu'il y a la Poste aussi qui est dedans, qui vont présenter les outils, qui vont converger pour au niveau européen, pour donner offrir aux États membres ces moyens. Et effectivement, l'euro digital fait partie de ces tests.
Est-ce que ça veut dire qu'en fait, Amazon va être l'entreprise choisie, ça veut dire que ce sera une entreprise privée américaine qui, en gros, va battre monnaie, c'est ça?
Ben, tout est possible, oui. Mais je crois qu'il y a aussi une banque italienne. Enfin, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Après, quels seront les critères de choix? Là, tout est flou parce qu'on est qu'au stade de l'appel d'offres. Dans le dossier législatif, il n'y a pas l'aspect technique. C'est pour ça qu'il y a tout ce retard et la problématique. Un certain député l'avait déjà dénoncé cet été. C'est comment, effectivement, une société Amazon, déjà extra-européenne, puisse offrir à de la monnaie de l'euro digital à nos concitoyens. Il y a éthiquement ces problématiques et puis une question de souveraineté aussi et puis de protection de nos fleurons financiers aussi. Est-ce que le marché américain ferait la même chose en disant demain tiens je vais ouvrir pour mes concitoyens le dollar digital à la Poste par exemple?
Normalement,
Avant de privé, parce qu'ils sont dans le numérique, ils sont dans voilà.
C'est aussi à la rigueur, moi, je peux comprendre. Bon, enfin, je veux pas, mais allez, je peux intellectuellement comprendre qu'on veuille faire de l'argent numérique. Mais alors, normalement, ça devrait être la banque centrale du pays en question qui devrait mettre en place l'argent numérique et pas une société privée.
Ouais, mais là c'est via la banque centrale. Donc en fait, c'est le lien se fera via la banque centrale qui elle va travailler avec différents partenaires.
Oui, mais je veux dire la banque centrale devrait être seule à le faire. C'est ça que je veux dire.
Ouais, mais là elle n'a pas la capacité en termes de numérique, ce que je peux entendre, puisque c'est juste une organisation. Elle n'a pas la capacité à fournir ce service. Donc elle fait appel à différents partenaires. Mais elle devrait au moins choisir des partenaires européens et pas.
Mais moi je vois que
basé à San Francisco et à New York.
Bien sûr. Mais moi, je vois que on prépare les gens de plus en plus à ça. Et je vais prendre l'exemple tout bête du paiement sans contact. Il y a 2 ans, le paiement sans contact était à 20 euros. Voilà, la limite était à 20 euros par achat. Elle est passée à 50 euros. Aujourd'hui, nous sommes à 50 euros par achat. J'ai eu appris hier par une dépêche qu'elle allait être le mois prochain à 80 euros par achat. Moi, je pose la question. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on habitue les gens à jeter le cash, en gros, à ne payer qu'en sans contact, et justement à ce que les gens se disent au final, oui, mais eh ben, l'étape d'après, c'est l'euro, enfin, c'est l'argent numérique.
Ouais, je pense que oui, petit à petit, on nous habitue à ce type de service qui, pour le coup, pourrait nous faciliter la vie. C'est vrai, voilà, on n'a plus besoin de faire le code, c'est rapide, il y a les gens derrière. Pour certains services, ça peut nous faciliter la vie. Donc, je comprends qu'il y a une fastesse, je peux comprendre qu'il y a une espèce de jeu sur le fait que ben on pousse les gens à utiliser ce service et on voit que ça fonctionne bien et donc on va plus loin. Mais après, voilà, c'est comme il y a certains services qui fonctionnent et puis d'autres pas. Je crois que ils ont fait l'essai dans un supermarché à Dresde sur un supermarché où il n'y avait pas d'étiquette. En fait, vous mettiez vos produits et puis vous passez la caisse et puis c'était automatiquement débité. Il n'y avait personne. Je ne sais pas si vous avez vu cette information. Et ça n'a pas fonctionné. Les gens n'y sont pas allés. Donc, je pense qu'aussi, à un moment donné, les gens, ils font un équilibre. Ils se disent, bah, attends, je ne vais pas aller au supermarché. Il n'y a personne, je ne sors pas. Donc, il y a des choses qui sont encore… Il y a encore du bon sens. C'est comme, bon, moi, je suis contre les caisses sans caissière. Moi, je suis contre. Voilà. Après, c'est une question de feeling. C'était donc ce supermarché où il y avait zéro caissière. Donc, les gens, et en plus, il y avait la facilité de paiement, vous ne sortiez pas votre porte-monnaie. À un moment donné, les gens, il faut qu'ils aient ce bon sens en se disant, non, si on utilise ce type de service, pas de caissière, bah, c'est des emplois en moins. Et puis, moi, je n'ai pas forcément envie de faire le travail, enfin, après une journée de travail, de faire ça. Donc, il y a certains services qui fonctionnent, d'autres pas. Après, ce qu'il y a de problématique, c'est qu'on a de moins en moins de DAB, de distributeur automatique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un vrai souci. Après, on ne pourra pas lutter contre la fermeture. Ça, c'est vrai que de plus en plus, on a moins accès à ces services. On voit qu'il y a la volonté aussi par la Poste de ne plus émettre de timbres. Là, c'est pareil. Comment ils vont-ils faire ? Parce que c'est bien beau le numérique. Il y a une partie de la société qui n'a pas de problème, qui utilise tous les services, mais il y a une autre partie de la société qui n'utilise pas. Je veux bien, la 5G, ce n'est pas tout le monde qui a en France, il n'y a pas partout de la 5G. Il y a encore des zones blanches en France, il y a encore des anciens qui n'utilisent pas ces services. On fait quoi de ces gens-là ? Hein ? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas…
Je pense qu'on veut les écarter. Hein.
On ne peut pas tout de suite bousculer tout le monde dans le numérique, même si c'est leur souhait. Donc, on a encore cette chance d'avoir nos anciens et qui sont encore récalcitrants. Après, ça sera un choix personnel de rentrer dans ce nouveau monde ou pas. Bon, j'ai bien peur que la nouvelle génération n'ait pas le choix.
Regardez, chère Virginie, moi, un truc que j'ai remarqué, et bon, je vais pas développer ça parce que je pense que YouTube ne sera pas d'accord, mais je remarque que depuis la crise sanitaire, nous ne voyons plus la génération née avant-guerre dehors.
Ouais, c'est vrai.
Je n'en vois plus. Hein. Moi, je suis à Paris, intramuros, je n'en vois plus. Je vois la génération boomer, née après-guerre, mais celle née avant-guerre qui a 85 ans ou 90 ans, je ne les vois plus. Quand j'étais môme, adolescent, jusqu'à encore récemment, je voyais ces gens avec des cannes, marchant. Enfin, mais je ne les vois plus. J'ai l'impression qu'ils ont disparu et donc que la société, en tout cas nos pouvoirs publics, ne veut plus d'elles. Je ne sais pas si vous faites le même constat.
On en voit moins, mais j'en vois quand même. Et j'en vois des bons parce qu'ils viennent me voir et ils me disent « je ne suis pas vaccinée ». Donc, non, moi, j'en vois encore un peu. Maintenant, ils sont peut-être moins visibles, mais, Mais non, c'est problématique pour cette génération. C'est vrai qu'on les a exclus aussi de la société parce qu'on leur a fait peur aussi avec cette crise sanitaire. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas aidés aujourd'hui, que ce soit en matière de santé, qu'en matière sociale. Et puis on voit bien qu'il y a une génération où on les oublie, voilà, c'est malheureux. Et c'est regrettable parce que c'est vrai qu'ils nous ont apporté beaucoup. Et moi, je suis toujours heureuse en conférence. J'en croise. Hein. Non, non, ils viennent. Hein, ils viennent. Hein. Mais
bon, voilà, bien de la chance. Hein. Mais aujourd'hui, le danger, hormis le fait que ça puisse être pris en main par l'étranger, ce qui est déjà très dangereux, mais quel est le danger pour le citoyen de ces mesures?
Moi, le danger, c'est les mesures liberticides. C'est pour cela que je suis vraiment très dure et je vais à fond sur ce sujet. D'avoir vécu ça, ce test-là, moi, ça ne m'a pas traumatisée, mais ça m'a révoltée. Je ne peux pas croire que sous le drapeau liberté, égalité, fraternité, on puisse comme ça nous changer notre mode de vie en nous faisant croire que c'était bien pour nous. Ça nous a sauvé des vies. Du jour au lendemain, il fallait aller au restaurant en montrant savoir si on était vacciné ou pas à des gens, à des inconnus. On ne pouvait plus aller au sport si on n'était pas vacciné. Il fallait montrer pour aller courir dans une salle de sport ou faire de la gym, montrer à quelqu'un, à une inconnue, si on était vacciné ou pas. Des gens ont perdu le boulot, des gens ont dû se reconvertir, les enfants n'ont pas pu à l'université. Donc moi, ça m'a révoltée. Que du jour au lendemain, on ait été obligé d'étaler notre vie, parce que c'est notre vie, notre santé, moi, mon vaccin, je n'ai pas envie de dire si je suis vaccinée contre ci, contre là, machin. Et en plus, être exclu, un outil où on n'a pas pu se déplacer, pour prendre le train, il fallait un pass, pour prendre l'avion, pareil, donc ça nous empêche de vivre. Donc moi, ça, c'était la ligne rouge qui a été déclencheur de tout. C'est-à-dire que si on va là-dedans, si, parce que le problème, c'est que c'était pas. On a eu cette pandémie, mais dans l'heure, ici, à la Commission et même tous, hein, ceux qui nous gouvernent, pour eux, la saison des pandémies, ça va devenir un rituel, hein, ça va devenir cyclique, ça va devenir constant. Donc, ce qui veut dire que demain redevient une pandémie X, Y, Z, ils auront tous les outils en place. Donc, effectivement, vacciné, pas vacciné, je t'exclus, je t'exclus pas. Le problème, c'est que. On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est que quand on a un vaccin qui fonctionne et qui est sur lequel on a dû.
N'en disons pas trop sur le vaccin, parce que voilà, YouTube n'est pas. Ouais.
Bon, mais quand on a quelque chose qui fonctionne, on va dire quelque chose qui fonctionne, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, je les ai tous faits. Mais là, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose sur lequel on n'a pas de recul, sur quelque chose où on n'avait pas le droit de débattre, quelque chose où certains se sont fait laminer et encore aujourd'hui se font poursuivre. C'est l'inquisition, là, hein, aujourd'hui. Hein. Ceux qui ont eu une position divergente ou s'ils n'ont pas été dans le moule de ce quelque chose, c'est terminé aujourd'hui. Ils n'ont pas pu conserver leur métier. D'autres n'ont plus de patients. Enfin, Donc voilà, pour moi, ça a été trop loin et c'est ça le danger. Et quand on voit ce qui s'est passé en Chine, où confinement, surconfinement, reconfinement, confinement, et puis si tu voulais retirer des sous, il fallait voir si tu avais ton carnet à jour. Donc voilà, ce système-là, il existe. C'est pas dans nos. Voilà, qu'il soit en Chine ou en Europe, on l'a vécu. Qui demain peut savoir s'il ne va pas être mis en place? Voilà, c'est ça le danger pour moi. Parce que là, ils auront l'outil qui sera là, avec tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il s'est dit au G20? Il s'est dit oui. Il s'est dit au G20, je crois que c'est des pays asiatiques, hein, qui ont débattu sur cette question. Et d'ailleurs, cette question était à huis clos. Hein. L'identité numérique a été à huis clos. Le passeport d'identité numérique a été à huis clos, donc on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Mais on a eu une vidéo juste avant, parce qu'il y avait eu le G20, il y avait eu aussi un autre forum mondial avec les sociétés qui ont pu échanger sur le sujet, parce qu'effectivement, sociétés privées, donc elles sont contentes, elles vont pouvoir vendre de la biométrie, elles vont pouvoir vendre des nouveaux passeports, parce qu'elles sont, elles sont là aussi pour vendre aux États, et c'est un marché. Et ils ont considéré que pour se protéger des pandémies, surtout en Asie, c'était une vertu d'avoir un passeport d'identité numérique. Donc, si certains États en Asie, pour qu'on puisse entrer chez eux, le mettre en place, quid des autres États. Donc, ça va faire effet domino. Hein, donc, en parallèle, il ne faut pas oublier, ça aussi, c'est un sujet. C'est pour ça que c'est passionnant et quand on remet tout en place, on voit le puzzle. Sachez qu'aujourd'hui, le traité international sur la gestion des pandémies au niveau de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, est en cours de discussion et en cours d'amendement. Aujourd'hui, on n'a pas accès à ces amendements. Mais ça veut dire que les États membres qui sont membres de l'OMS sont en train de réfléchir à ce que la gestion des pandémies soit faite par l'OMS. La problématique, ça veut dire, et c'est inscrit dans le texte, ça au moins c'est clair, c'est que perte des souverainetés des États membres sur le sujet et sanctions. Voilà. Donc ça, c'est ça, on a aucune doute sur ces deux éléments, mais qui sont importants. C'est-à-dire que si demain, c'est l'OMS qui décide, OK, demain, pandémie, donc ça veut dire tous les États membres qu'ils ont signés, qui sont dans l'OMS, devront mettre en place cette stratégie. Ce qui veut dire passeport, plan vaccinal, etc., etc. Donc ça, on n'est pas dans la fiction, c'est en ce moment. Et d'ailleurs, le vote, il faudra le suivre. Mike, hein, faut aller suivre ça. Il faut même aller en Suisse parce que ça sera à Genève.
Ah bah oui,
donc, il va y avoir la signature de ce fameux traité.
C'est quand
qui va avril. Je vous donne exactement la date parce que j'en ai parlé cet après-midi. Avec, vous devez connaître cette fameuse association de Kennedy. Donc là, je suis en pourparlers avec Orsolia Geoffrey, qui est la porte-parole européenne.
Est-ce que vous y serez ?
Alors nous, on va monter une conférence autour de ce sujet, mais plutôt au Parlement. Je ne sais pas encore quand et où. Demain, je déjeune avec pour voir comment on va organiser ça, pour expliquer ce qui est en train de se mettre en place. Donc je vous dis, tout est lié. Hein. Là, on va dire complotisme. Mais non, encore une fois, G20, on a les propos de certains chefs d'État qui disent que c'est très bien le passeport, il faut le mettre en place. Des propos de sociétés du numérique qui disent, ben oui, nous, on est bon, on a tout qui est prêt, il n'y a plus qu'à. Et puis, l'OMS, le traité qui est en train d'être mis en place. Et puis, la commission, même dans la commission Covid dans laquelle je suis, il y a un pilier mondial. Et c'est Mme van der Leyen qui répond de ce pilier mondial avec, vous savez, le système COVAX, le système Gavi. Gavi, c'est l'alliance des vaccins. Et COVAX, c'est donc la plateforme qui permet à ce que les stocks de l'Union européenne puissent transiter vers Gavi. Donc, on n'est pas du domaine de la science-fiction, on est dans le domaine du réel. C'est vrai que c'est des sujets qui paraissent hyper lointains, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet et certaines plateformes, on a accès à toutes ces infos. Après, il faut juste refaire le puzzle.
Mais aujourd'hui, votre parti, malheureusement, n'a pas la majorité. Donc, comment se protéger contre ces mesures ?
Alors, on n'a pas la majorité, mais déjà, on a beaucoup de soutien. Et le fait d'en parler, de buzzer, d'échanger, déjà, ça veut dire que… Parce que pourquoi ça passe ? Pourquoi les insectes s'est passé ? Personne ne savait. Quand les gens commencent à connaître ces infos, à savoir, donc après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient une lettre à leur député de leur circo, et puis après une, et puis après deux, et puis après ils demandent un rendez-vous. Donc tout ça, après d'en parler, d'échanger, de provoquer un débat, effectivement, ça permet de voir qu'il y a une partie de la population qui est contre ce projet. C'est pour ça que l'idée des lanceurs d'alerte, c'est un peu aussi ce qu'on fait entre guillemets, c'est-à-dire qu'on alerte la population sur un sujet avant qu'elle ne soit débattue. Du coup, on leur permet d'avoir un temps d'avance. Parce que souvent, on se rend compte que les sujets ont été débattus et on se rend compte du pot aux roses après. Moi, j'essaye de faire l'inverse. C'est-à-dire, attention, il y a ça. Bon, là, le coup des insectes, c'était déjà passé. Mais quand même, là, l'idée, c'est de dire aux consommateurs, attention, là, il va y avoir cette nouveauté. Donc, alerter l'agroalimentaire, alerter le 65 ou maintenant, j'ai plus 70 millions de consommateurs pour qu'ils puissent prendre les devants et nous donner et nous protéger.
C'est-à-dire qu'en fait, la solution, c'est le peuple qui l'a, quoi. Voilà, faut le dire.
Toujours, il a toujours, moi j'ai envie de dire, dans les élections, ils élisent les bonnes personnes, et puis après, derrière, à nous de donner les informations et de donner tous les outils pour qu'on puisse débattre des sujets et d'essayer des fois de faire tomber des choses qui ne vont pas dans le sens du citoyen. Après, on est tous différents, voilà, c'est ce qui fait la diversité l'échelle politique, donc avec des sensibilités différentes, et c'est pour ça des fois que ça coince, mais bon, ça fait partie du jeu.
En tout cas, merci beaucoup, chère Virginie. Nous avons passé 1h15 ensemble.
Hein. Ouais, c'est passé vite. Hein. Je ne sais pas si très vite, beaucoup connecté, mais après, de toute façon, tu refais.
Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde. Donc, du coup, comment vous suivre ? Peut-être sur YouTube, sur les réseaux ?
Oui, comme d'hab. Hein. Moi, je sais que j'aime bien ces outils parce qu'en fait, finalement, ils permettent d'être proche de tout le monde et aussi d'avoir une parole plus libre. Alors, c'est ça le paradoxe. Il y a des mots-clés, il y a des mots qui fâchent, donc on est censuré, donc on fait attention à pas se faire censurer. Mais je touche du bois, pour l'instant ça fonctionne bien, et je trouve que finalement, c'est des outils qui permettent une vraie démocratie. Donc j'y suis très attachée, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au sujet du numérique. Toujours, voilà, dans les règles, en respectant les règles qui sont normales. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Et je trouve que c'est un vrai pouvoir, même vous. C'est pour ça que j'aime bien venir chez vous, Mike, parce que il y a cette interaction.
Et moi, j'aime venir chez vous aussi.
Voilà, il y a cette interaction qui est rapide, qui permet de poser des questions, de voir aussi qu'on est accessible. Moi, les médias mainstream, je les aime bien, mais.
Une petite coupure, qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, c'est la fin. Merci beaucoup, chère Virginie. Voilà, je sais pas, il y a une coupure chez elle. Bon, de toute façon, c'était la dernière minute, c'est pas grave. Passez tous une excellente soirée et au prochain live. Allez, salut, ciao.